Vous êtes sur RTL.
Ce midi, elle est l'invitée d'RTL Soir.
Bonsoir Agnès Naudin.
Bonsoir.
Vous êtes capitaine de police au sein d'une brigade territoriale de protection de la famille. Je voudrais rebondir sur le nom de votre livre pour commencer. Affaires d'ados. Qui sont ces ados dont vous nous parlez ?
Alors, ce sont les adolescents qui sont passés dans mon bureau pour lesquels j'ai fait des enquêtes. Voilà, trait à leur sexualité, qu'ils soient auteurs ou victimes.
Ce sont des affaires que vous avez suivies en quelque sorte, ce sont vos affaires.
Et tout à fait.
Que disent-elles de la société, ces affaires ?
De la société ou des ados ?
Des ados et de la société, enfin des deux en l'occurrence, parce que les ados sont dans la société a priori.
Alors je pense que ces affaires de nos ados, elles disent que en termes de sexualité, ils sont tous passés par le porno, enfin par la pornographie, relativement assez jeunes, que de là découle une certaine forme de déviance. Sur laquelle je pense qu'il est grand temps de se pencher.
Mmh. Quand vous dites tout, ça veut dire tous milieux sociaux confondus ?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et ça, c'est très important.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la pornographie est l'alpha et l'oméga de l'éducation sexuelle des enfants et des jeunes ?
Bah, de ceux qui apprennent ça sur Internet,
ouais.
Oui. Après, je pense qu'il y a certaines familles dans lesquelles on en parle et où c'est très bien d'en parler. Et je pense que ça devrait être le cas à chaque fois. Quand c'est pas le cas, la solution pratique qu'ils ont, c'est le téléphone portable et donc un accès à la pornographie illimité à toute heure du jour et de la nuit.
Quand vous leur en parlez, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Comment ils expliquent ça ? Comment ils justifient ça ? Est-ce qu'ils trouvent ça normal finalement ? Est-ce qu'il y a des choses dures dans votre livre ? Est-ce que ces horreurs-là, ils les trouvent entre guillemets normales ?
Bah pour eux, la pornographie, c'est la sexualité.
Mmh.
C'est ce qu'ils connaissent. Donc il n'y a pas de... Ça, pour eux, c'est la normalité.
Ouais.
Voilà.
Il y a une responsabilité, selon vous, de l'éducation, que ce soit celle des parents, que ce soit l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Parce que vous êtes aussi maman, vous parlez de votre fils d'ailleurs dans le livre. Okay. Comment vous réagissez par rapport à ça ?
Je pense que c'est de notre responsabilité à tous de prendre conscience de ce phénomène et de parler à nos enfants. Donc ce livre-là, je l'ai écrit pour les parents, en premier lieu. Et après, je pense que dans l'éducation nationale, ils sont au fait de ça. Ils le savent, ils en entendent parler tous les jours. Enfin, ça fait partie de leur problématique quotidienne aussi.
Mmh.
Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui est encore un peu tabou, un peu trop, justement.
Ouais. Ils sont attachants, ces enfants ? On arrive à laisser l'affectif à distance ?
Bah, ça dépend desquels.
Ouais.
Oui, les enfants qui sont victimes sont toujours attachants. On a de la compassion pour eux. Les adolescents qui sont auteurs, ça peut être un peu plus compliqué parfois. Maintenant, ça reste des adolescents. Donc ça reste des jeunes qui sont en train de se construire, qui traversent des périodes qui sont difficiles. Et je trouve qu'ils sont souvent seuls dans ces périodes-là. Pas assez accompagnés, à mon sens.
Mmh.
Donc oui, faut les protéger, ceux-là aussi, en fait.
Ce livre, c'est un mélange de votre vie de flic et de votre vie personnelle. Vous parlez, je le disais, de votre fils, de votre vie amoureuse. Comment vous arrivez à mettre une frontière entre ce que vous vivez la journée et votre vie de famille ? On ne devient pas, je ne sais pas, parano ou déraisonnablement inquiet ou inquiète ?
J'essaye de ne pas l'être.
Comment vous faites ?
Je pars du principe que si je dois, dans ma tête, faire vivre à mon fils tout ce que j'entends, je ne dors plus, je ne vis plus. Donc j'essaye vraiment de le scinder et de rester en retrait par rapport à ça, tout en étant en alerte sur ce qu'il dit, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il peut raconter aussi quand il rentre de l'école ou des adultes avec lesquels il est en contact.
Il a quel âge, lui ?
Il a 6 ans.
Et vous lui parlez déjà de sexualité ou c'est trop tôt, pour le coup, en éducation ?
Alors, c'est pas moi qui lui en parle. En revanche, régulièrement, va faire des réflexions ou autres. Et dans ces cas-là, oui, j'en parle avec lui. La dernière fois, il m'a expliqué qu'un garçon qui était amoureux d'un garçon, c'était quelque chose qui n'était pas bien. Et donc, du coup, j'en ai parlé avec lui en lui disant que c'était pas bien ou pas, c'est qu'il y en a qui préfèrent et que c'est comme ça. Donc tout, en fait, il faut parler des choses simplement avec les enfants, aussi simples qu'ils sont avec nous d'ailleurs.
Il paraît que vous avez voulu devenir flic après avoir reçu un autographe de Véronique Genest, c'est vrai ça ou pas ? Le commissaire Lescaut, que c'est votre papa, je crois qu'il la croise dans un avion et qui lui fait signer un bout de papier.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment ça qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Quand j'étais petite, je regardais les Julie Lescaut et,
ouais.
Et effectivement, je pense que c'est à peu près à la même période que j'ai voulu être flic. Donc pour mes parents, ça a toujours été la porte d'entrée dans la police.
Mais pourquoi vous avez choisi ce métier sur le fond ?
Parce que j'aime aider les gens.
Ouais. Et vous remplissez cette mission aujourd'hui, vous avez le sentiment, avec, on parle beaucoup du manque de moyens de la police, des difficultés, des cadences, des rythmes infernaux. Vous y arrivez aujourd'hui, on vous donne les moyens de le faire ou pas ?
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et avec ce qu'on a.
Et c'est suffisant ?
Les bonnes volontés, on va dire, des uns et des autres, permettent de suppléer les manques de moyens qu'on peut avoir. Ce que je sais, c'est que même si c'est difficile, ils ont une force d'abnégation que je trouve... je ne sais pas si elle est peu commune, j'en sais rien, parce que je ne travaille pas dans les autres milieux, mais pour moi, ça force le respect.
Mais le mal-être dénoncé par vos collègues, vous le ressentez, vous aussi, ou pas? Ils manifesteront d'ailleurs à Paris, manifestation de la colère le 2 octobre.
Oui, j'y serai.
Ouais.
Je vais aller marcher avec eux. Oui, moi j'en ai un peu fait les frais aussi, on va dire en termes de management. Pas les moyens, j'avoue que j'étais dans un service qui était bien loti là-dessus. Et il y a quand même énormément de moyens qui ont été donnés à la police depuis pour améliorer les conditions de travail.
J'ai une dernière question. Ce week-end, on a vu un policier de Quimper et un caïd présumé d'un quartier de la ville se battre avec des gants de boxe. Alors, la directrice départementale de la sécurité publique a dit que c'était pas un vrai combat, qu'ils se connaissaient. Ça peut être une bonne idée. Ça vous choque, vous, ce genre de contact et de lien? Vous, la policière, vous en pensez quoi?
Il y en a qui parlent de faire des matchs de foot, donc pourquoi pas des matchs de boxe?
Donc ça vous choque pas?
Non.
Merci beaucoup, Agnès Naudin. Votre livre s'appelle Portrait d'ado. Il est aux éditions du Cherche Midi. C'est un regard qui est parfois dur, mais qui est utile, en tout cas sur les ados et même pour les parents d'enfants un peu plus jeunes. C'est Affaire d'ado, qui s'appelle, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est Affaire d'ado, publié au Cherche Midi. Merci à vous et bonne soirée.
Je vous remercie. Au revoir.
RTL Soir, 18h46.
Et dans un instant, c'est leur choix. Julia Molcou, Catherine Boulet et Christian Ménanteau dans RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir. Auchan.fr.
C'est le soir, 18h49, ça y est, ils sont prêts, autour de la table.
Et c'est leur choix, ça y est, ça papote dans tous les sens. Il y a Catherine Boulet, il y a Christian Ménanteau, il y a Julia Molcou. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Catherine, aujourd'hui, vous nous apportez la preuve qu'on peut faire de la géopolitique avec humour. Ça s'est passé lors du dîner de gala de la Yalta European Strategy, président ukrainien.
Vous le dites avec l'accent parfaitement.
Ouais, l'accent ukrainien. Le président ukrainien a imaginé le groupe WhatsApp des grands de ce monde et c'est très drôle.
Et oui, c'était plutôt réussi. C'est Volodymyr Zelensky, vous savez, l'ancienne humoriste devenu président ukrainien, qui commence la conversation.
Bonsoir à tous.
Alors chacun lui répond dans sa langue.
Bonsoir.
Guten Abend.
Hola.
Mais arrive la réponse de la Grande-Bretagne qui est absolument incompréhensible. IDJJJKE avec des petits caractères spéciaux, on n'y comprend rien. Alors les États-Unis, la France et l'Allemagne envoient chacun leur point d'interrogation. Voilà, donc ça se bombarde de points d'interrogation et arrivent les explications de Harry, le prince.
Ici le prince Harry. Grand-mère essayait de vous dire qu'elle était très heureuse de voir tout le monde.
Alors évidemment, dans la salle, comme avec vous, tout le monde a éclaté de rire. Ensuite, c'est l'Ukraine qui demande qui est l'administrateur de ce groupe, qui s'appelle au passage le World Leaders Group, donc vous imaginez qui se cache derrière. Première à répondre, la Russie.
Moi.
Et puis la Chine.
Moi.
Et puis les États-Unis.
C'est ça, continuez de rêver.
Message suivant. La Russie et la Chine sont supprimées du groupe. Arrive alors, parce qu'on attaque tous les sujets, la Corée du Nord. L'Ukraine la félicite un peu moqueuse.
Bravo pour les débuts d'Internet en Corée du Nord.
Réponse de Pyongyang.
En fait, je suis juste allé courir 5 minutes en Corée du Sud.
Pour avoir Internet. Smiley, clin d'œil de la Corée du Sud. Et ça continue comme ça, les États-Unis reprennent la parole.
Vous êtes une très belle femme.
Ah, mais ça c'est un...
Désolé, affaire. Mauvaise conversation.
Et ça continue,
c'est plutôt
ça continue.
Traditionnel pour le personnage en question.
Pas de tabou, tout est abordé. Les discussions avec le FMI que Christian Ménanteau vous connaissez par cœur, en passant par les projets d'investissement américain en Ukraine, l'annexion de la Crimée ou l'achat du Groenland. Et derrière ce jeu, il y a évidemment un message. C'est que
c'est quoi, le message?
Même si c'est pour rire, on voit que l'Ukraine, elle s'attribue une place au milieu des grands de ce monde. Et surtout, elle s'attribue une place face aux États-Unis qui sont en pleine campagne présidentielle. Rien qu'hier, par exemple, vous savez, Donald Trump l'a appelé Zelensky au téléphone pour essayer de lui soutirer des informations sur son adversaire, le candidat démocrate Joe Biden. Alors, la Maison-Blanche a partiellement démenti cette affaire, mais l'affaire du coup de fil ukrainien est en train de prendre beaucoup d'ampleur aux États-Unis.
Évidemment, cette petite conversation, on va vous la mettre sur Twitter avec le compte RTL Soir, parce que c'est très rigolo à regarder par message. Merci Catherine. Christian Ménanteau, vous n'êtes pas complètement en ligne avec ce qu'on raconte à New York sur le climat ce soir. Vous dites qu'à Paris, on ne voit pas les choses de la même manière, notamment sur la lutte contre les émissions de CO2.
Ben absolument. Hein. J'ai écouté Christophe Decroix dans votre journal tout à l'heure, et ça m'a un petit peu surpris, parce qu'aujourd'hui même, à Paris,
Paris. Donc l'OCDE nous révèle que les 44 pays les plus pollueurs du monde font quasiment rien en termes de taxe carbone. Or, la taxe carbone, c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pollution.
L'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050, etc.
On ne parle que de ça, vous connaissez ça par cœur. Ça devient quasiment une répétition de mots banalisés. Et donc, s'il n'y a pas de fiscalité sur la taxe carbone, il n'y a pas de lutte réelle contre la taxe carbone. Deux tiers des émissions industrielles et individuelles, aujourd'hui, échappent à toute forme de fiscalité. En réalité, on ne taxe que l'essence et que le diesel dans les pays industrialisés et encore beaucoup.
Vous nous dites quoi ? C'est du blablabla ce qui se passe là-bas ?
C'est pas mal de blablabla. On est en train de nous enfumer, si je puis m'exprimer ainsi en parlant de CO2. Parce que regardez, une tonne de charbon aujourd'hui, et l'Allemagne, Dieu sait si elle en utilise, elle nous pollue beaucoup d'ailleurs, n'est taxée que de 0,73 €.
Et il faudrait que la barre soit où ?
À 30 euros minimum la tonne.
Ah ouais.
Vous voyez qu'il y a quand même un Himalaya et on est en train de nous promettre de le monter. En réalité, Mme Merkel comme les autres sont en short et en tongs et nous promettent qu'ils vont arriver en haut.
Ouais, c'est pas facile en short et en tongs, quand on veut aller très haut. Voilà, c'est ça aussi, c'est leur choix. C'est une autre regard et une autre mise en perspective de l'info et de la culture. Ou une série pour Julia Molcou, série dont vous nous parlez, Julia.
Avec qui passeriez-vous votre dernière nuit sur Terre, Thomas ?
Ou avec un énorme pot de glace.
Okay, alors, cette question, ça n'est pas un dialogue des feux de l'amour et ça n'est pas non plus moi qui vous la pose vraiment.
Quel parfum, vous l'avez pas dit ?
Pistache.
Est-ce qu'on va vraiment tout se dire tout de suite ? C'est la question que posera la mini-série lancée par Tinder.
Tinder,
l'application de rencontre.
De rencontre.
Mais oui, faites pas semblant. Vous savez, celle qui vous propose de balayer les photos de profil qui apparaissent sur votre écran. Donc, je rappelle pour tout le monde, à droite, j'aime. À gauche, j'aime pas.
Ah, c'est ça
et
que Catherine
Boulay
fait toute la journée avec son sens.
C'est ça.
Ah, ok.
C'est ça.
Quelle réputation vous me faites, là ?
Tinder lance donc une mini-série de 6 épisodes qui sera interactive. C'est-à-dire qu'elle se construira en fonction des choix des utilisateurs qui feront face à des dilemmes moraux et à des choix cruciaux pour la suite de la série et qui n'auront à chaque fois que 7 secondes pour décider de la tournure sans retour en arrière
possible.
Donc
du mode de fonctionnement de Tinder, ils font une série avec les mêmes règles.
Exactement.
Je garde ou je jette.
Est-ce que vous voulez que votre héros continue sur cette route ou frappe à cette porte ? Si Christian et moi, on choisit tous les deux de frapper à la porte, à un moment ou un autre, on nous proposera
la même
de nous rencontrer.
Oh.
Et c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, loin d'être vraiment culturel, je sais qu'entre vous et moi, c'était déjà fait. Loin d'être culturel, c'est une nouvelle façon pour l'application d'améliorer son algorithme et donc de présenter des utilisateurs qui ont des choses en commun, des choix en commun, des valeurs communes, etc. en fonction de ce qu'ils vont choisir pour leur fameuse dernière nuit sur Terre.
On verra ça où et quand.
Thomas, si vous permettez. C'est sur la télé qu'on va à droite et à gauche.
Non, sur son téléphone. Très bonne question, merci.
Téléphone. Donc pistache ou vanille, quoi.
Voilà. Pistache ou vanille, voilà.
Oui, vous prenez votre Minitel, Christian, et vous touchez l'écran.
Non, écoutez,
le budget de la série, je termine avec deux infos. Oui, le budget de la série, c'est 5 millions de dollars et ça s'adresse plutôt aux 18-25 ans. Dernière petite info, ça sort d'abord aux États-Unis le 6 octobre prochain pour les 50 millions d'utilisateurs. Nous, Christian, il va falloir attendre un tout petit peu, mais je vous promets, je guette la sortie en France.
Voilà.